France Musique.
Stéphane Grant, les grands entretiens. France Musique.
Je m'appelle Christa Ludwig et je suis née le 16 mars 1928 à Berlin. Je suis très vieille. Je suis mezzo-soprano, ou on peut dire soprano-mezzo.
Fin de l'année 1955, au mois de décembre, vous faites vos débuts sur la scène du Staatsoper de Vienne, qui a rouvert ses portes, oui, après avoir été restauré. Là, vous chantez Octaviane.
Oui.
Quelles sont les sensations quand on arrive sur ce plateau avec, j'allais dire, sous le plateau, enfin, oui, à ses pieds, la fosse, oui, si on peut l'appeler ainsi d'ailleurs, de l'orchestre philharmonique,
oui,
de Vienne, l'orchestre de l'Opéra de Vienne.
Oui, ça je peux vous dire, parce que c'était le 26 décembre 1955. Et de la Casa, Lisa de la Casa, chantait pour la première fois le Maréchal. Et on avait aussi une répétition avec l'orchestre avant. Mais seulement les pièces où elle chante. Pas pour moi, seulement pour elle. C'est aussi Vienne. Hmm. C'est comme ça, l'opéra de Vienne. Et quand je suis venue dans le deuxième acte avec le costume blanc, le perruque blanche, et tout était en blanc, éclatante de lumière et tout ça, et l'orchestre philharmonique en bas, et j'ai vu pour la première fois aussi une public,
la salle, oui,
allumée. C'était allumé parce que c'était tellement blanc à la scène. Et ça était pour moi, avec la rose dans mes mains, le seconde, comme Faust dit au moment, reste, tu es si beau. C'est une seconde, c'est rien. Et j'avais ça. C'est une claque, comme dans le ventre. Ça fait boum, ça fait boum. Et ça, je ne veux jamais oublier.
Remémorer là ce choc d'Octaviane dans Le Chevalier à la Rose en 55. Dans les années qui ont suivi, est-ce qu'il y a eu comme ça autant de moments qui vous ont à ce point ému et que vous avez vraiment dans la mémoire?
Oui, ça a été Fidelio, parce que je voulais toujours chanter Fidelio, parce que j'ai entendu ma mère chanter Fidelio avec Arayan, et j'ai crié l'air de Fidelio toujours, toujours à la maison, et j'étais tellement triste, je suis pas un soprano, je peux pas. Et j'ai dit toujours, une fois chanter Fidelio et après je peux mourir. C'était ça. Et quand on m'a demandé chanter Fidelio pour l'enregistrement avec l'empereur, ah, mon Dieu, je peux chanter Fidelio, ah, ah, ah. Alors j'ai appris tout le rôle. je connais déjà. Bon. Et ça a été formidable parce que tout le monde était en bonne voie et tout va bien. Et j'ai pensé, quand j'ai chanté ça ici avec Karajan à Vienne, et après, même moi, je dois maintenant mourir, peut-être. Et mais ça a été toujours mon souci, parce que je ne suis pas réveillée le matin toujours à soprano, non? J'avais des nerfs terribles. Mais ça, je dois dire, quand j'ai fini la soirée avec Udelio, je dis, ah mon Dieu, rien n'est passé, tout va bien. Oui.
Quand vous évoquez quand même ce Fidelio, Christa Ludwig, que vous l'enregistrez en studio avec Otto Klemperer, et puis que quelques temps après vous le chantez sur scène, ici, à Vienne, avec Karajan, j'imagine qu'en plus les choix des chefs d'orchestre, Klemperer et Karajan, ils sont très différents.
Avec Karajan, je pouvais tout chanter, parce que Karajan a respiré avec les chanteurs. Karajan, il était le chef d'orchestre qui peut être un petit peu plus long, si on doit avoir un petit peu plus de respiration ou quoi, ou on peut un petit peu plus vite, parce qu'il savait, on a des difficultés là ou là ou là, et aujourd'hui ce n'est pas comme la dernière fois, comme ça. Il savait ça. Et il avait aussi la possibilité, techniquement, pour diriger l'orchestre, pour faire un plus long bras, ou plus vite, ou quelque chose comme ça. Alors, ça a été Karajan. Et avec Böhm, c'est aussi possible. Mais je devrais une fois chanter avec Knapertzbusch, et je savais qu'il est très lent, et je dis non, je ne peux pas.
C'était un grand changement, l'arrivée de Herbert von Karajan à la tête de l'Opéra de Vienne, succédant à Karl Böhm, Christa Ludwig. C'était un jeune chef encore à l'époque, mais la personnalité était très différente de celle de Karl Böhm, la personnalité de Karajan.
Oh, oui, mais c'était... Non.
Non.
La seule chose était que ça. Alors, c'était le temps où tous les chanteurs, ils ont fait la répétition avec une veste, avec costume, avec cravate, tout ça, c'était normal. Et aussi, les dames, les cantatrices, ils ont eu sur la répétition un petit chapeau, une petite chose sur la tête. Tout ça, c'était plus élégant. Et Karajan est venu avec des mocassins et avec des pullover et les jeans. Et subitement, tous les chanteurs, ils ont eu une pullover, des jeans et des mocassins. Et non plus des cravates et des costumes, oui.
De tous les rôles que vous avez chantés sous sa direction, vous citiez Fidelio, il y a la femme sans ombre aussi, le rôle de la teinturière que vous avez chanté en particulier ici, à l'Opéra de Vienne en 1964. C'était pour le centenaire de Richard Strauss. Ça, c'était, j'imagine, aussi un événement, une soirée un peu exceptionnelle.
Oui, parce qu'on ne me connaissait pas dans un rôle comme ça, soprano. Ouais. Et c'était le grand astonishment, comme on dit,
étonnement,
le grand étonnement de critique, mais c'était bien.
Ich bin kaputt, ja, ich bin kaputt.
À Karajan, est-ce qu'on peut dire oui à toutes les propositions? Je veux dire, quand il vous demande de chanter un rôle,
oh
dont
oui.
vous dites « je ne peux pas le chanter quand même ». Brunhilde, Isolde, Elektra, enfin toutes ces choses que nous, évidemment, on aurait aussi rêvé de vous entendre chanter, Christelle Ludwig. Mais quelquefois, il faut savoir dire non, y compris au plus grand chef.
J'ai dit ça aussi, j'ai appris tous les rôles. Je pouvais chanter dans une chambre, dans une pièce à la maison. Mais c'est pas difficile dans une pièce à la maison, non? Mais c'est beaucoup plus difficile la dernière semaine avant la première. On a des répétitions avec l'orchestre, sur la scène avec l'orchestre, et on est mort jusqu'à la première arrive, non? Et ça, je ne pouvais pas. Et Karajan a dit à moi, parce que j'ai dit avant, oui, je veux, parce que c'était mon grand vœu, chanter ça. Et quand je dis non, il m'a dit, ah, Christa, vous êtes comme un chat. Ah, je dis, comme un chat. Oui, un chien, on peut dire, saute, il saute. Un chat, il regarde avant si il peut sauter ou non. Alors, il n'était pas fâché à moi, mais il avait des grands soucis. Qui peut chanter à ma place? Parce que j'ai dit non pour 6 semaines avant, quelque chose comme ça. Non?
Ça, c'était pour quel rôle, pardon?
Oh, je crois pour Brunhilde.
Brunhilde. Oui.
Et je devrais aussi, Karajan voulait que je chante Isolde. Et j'ai parlé avec Böhm. Et j'ai dit, alors, Karajan veut que je chante Isolde. Mais c'est terrible! Tu devrais pas! Avec moi, tu pouvais. C'est ça. Alors, et après, est venu Bernstein avec Isolde. Et c'était à Vienne. Et j'ai dit, alors, je veux auditionner pour toi, pour Isolde. Et on n'avait pas, c'était le temps sans mobile téléphone. Mm-hmm. Hein. Ça devrait être dans le Concerthaus, l'audition. Et à la rue, je suis allée dans une petite cabine de téléphone.
Oui.
Et j'ai téléphoné, je ne viens pas. Non.
Et là, quelle est la réaction de...
Non, il était très triste parce que la voix, le timbre de la voix, c'était Isolde.
Oui.
Mais ma mère m'a dit naturellement, si tu chantes ça, tu ne pouvais plus chanter le Matthäus Passion.
Passion selon saint Matthieu, oui.
Par exemple. Et des récitals et tout ça. Et ça, je ne... Mais j'étais tellement frustrée de mes cordes vocales, je ne pouvais pas chanter ça, parce que les cordes vocales n'étaient pas faites pour ça. Alors on peut rien faire, c'est la nature.
Mais vous, quand même, quand vous le chantiez pour votre mère, pour Zinka Milanov aussi à New York,
pour essayer
le rôle, vous vous sentiez bien quand même dans ce rôle, vous aviez envie de le faire.
Oui. Mais Zinka Milanov m'a dit, mais Christa, c'est seulement pour ton fierté, tu veux chanter ça, quel âge tu as maintenant? Et j'avais 44 ou 45 ans. Et elle m'a dit, mais Christa, c'est beaucoup trop tard. Dans quelques années, tu es dans la ménopause et jusqu'à ce que tu es engagée pour ça, tu es dans la ménopause et tout est fini. Laisse-toi. Alors, je n'ai pas fait.
Les grands entretiens. France Musique.
Vous avez parlé de votre second mari, Christa Ludwig. On peut parler un peu du premier, de Walter Belli, avec lequel vous avez partagé de nombreuses années, mais surtout avec lequel vous avez partagé beaucoup d'expériences sur scène.
Ah oui.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça?
Ah oui, naturellement. Je rencontrais Walter Belli, le baryton, ici en Vienne. Et on a chanté ensemble Carmen et des concerts et tout ça. Elle était très gentille, il avait beaucoup de humeur.
Beaucoup d'humour.
Humour. Humour, nous disons humour, et vous dites humour, ok. Mm. Et j'aimais ça, et je voulais justement, avant mon 30 ans, un enfant. Et je pensais, alors maintenant, ça est possible, on se mariait. Il est à Vienne, je suis à Vienne, nous sommes tous les deux engagés, tout est bien, tout ensemble, j'aimais bien Walter, et on se mariait, et tout était bien. Mais on parlait seulement du chant. Et on se nourrit de l'une à l'autre, comment on doit faire, le ton, la phrase, tout ça. Et c'était formidable pour nous deux.
Et mais pour vous deux chanteurs, ça oui. C'est autre chose que la vie privée et la vie de couple.
Oui, c'est pour les deux chanteurs. Ouais. Et on était plus le chanteur couple qu'un marié couple. Mmh. Hein? Quand on chante, on ne doit pas faire l'amour. Et nous avons chanté deux fois par semaine, parfois lui et parfois moi. Et ça était naturellement pour un mariage, pas très bien. Non? Et... quand j'avais 40 ans, j'ai pensé comment je parlais avec lui quand je suis vieille et je ne chante plus. Je ne peux pas dire ma mariage était triste. Non, pas du tout. Mais j'avais peur pour l'âge. Alors j'ai pensé, c'est mieux, je me divorce.
Et lui?
Lui aussi, parce qu'il n'était pas fidèle du tout. Non, il avait toujours des petits amis, pas une vraie chose, non seulement comme ça, de temps en temps, parce que moi je chantais, c'est ça, c'était la raison, je pensais peut-être c'est mieux, c'était un divorce très très bien, mais je voulais être encore mariée, c'est parce que j'aime ça, je n'aime pas du tout être seule, non. C'est terrible, non. Et quand j'ai vu mon mari, le deuxième, pour Émile Debert, au Metropolitan, dans la répétition pour Werther. Je ne connaissais pas la musique, je ne connaissais pas le mot, parce que j'avais la grippe. Et il est venu chez moi, dans mon appartement, et il m'a appris le français, et comme ça nous avons nous sommes mariés. Non, j'ai vu dans les yeux, et j'ai pensé, c'est lui. Et c'était quand même lui pour, jusqu'à la mort, 43 ans.
Autres interprètes avec lesquels vous avez partagé la scène, Christa Ludwig, quelles sont celles ou ceux qui vraiment vous ont impressionné?
Don Parsifal, John Vicas. Et aussi Fidelio, John Vicas.
Pourquoi?
Elle a chanté une phrase, Don Parsifal par exemple, c'est une phrase, ça veut dire « Amfortas die Wunde », la blessure d'Amfortas. J'ai pleuré à la scène. Elle était fantastique. C'était aussi pas seulement la voix, c'était lui. C'était tout le personnage. Hein? C'est comme Callas quand elle chante une récitative de Bellini, quoi. Je pleure. C'est dans sa voix qui n'était pas jolie du tout. C'est tout le tragédie de sa vie est dans la voix. C'est comme une tragédienne grecque. Vous savez, Gustav Mahler, Mahler, vous dites Mahler. Gustav Mahler a dit « L'essentiel de la musique n'est pas écrit dans les notes. » Et si on peut se servir de sa propre voix pour montrer le caractère, l'émotion et tout ça, et ça est le chant. Tout le reste n'est pas le chant. On chante. Ok.
Avec Callas, entre autres, vous avez enregistré
seulement
une
Norma.
Intégrale de Norma. Pour elle, c'était la deuxième, le deuxième studio en stéréo à l'époque.
Oui.
Où vous chantiez à Dalgisa, vous n'aviez aucune idée de la façon de chanter Bellini.
Rien. Elle m'a dit, vous devez seulement imiter moi. Alors, c'est pas possible. Non, mais c'était très drôle avec Adalgisa parce que je n'avais pas d'idée de Bellini ou Donizetti. Ce n'est pas mon cup of tea, je ne peux pas. Et j'étais à Salzbourg pour chanter dans le festival et Walter Legge, le chef de IMAE, ou de EMI, comme vous dites, il est allé chez moi et il a dit « Chris, pouvez-vous chanter la prochaine semaine ?» J'ai dit « Quoi ?»« Ici sont les notes. » Alors ce n'est pas difficile à apprendre parce que Bellini, c'est pas difficile. Alors je fais ça et je n'ai pas d'idée de style de ça. Et on avait là-bas un formidable coach et naturellement le chef d'orchestre.
Tullio Serafine.
Serafine, oui. Et Callas. Alors j'ai imité Callas. J'ai essayé d'imiter Callas et ils m'ont appris ça. Mais on doit avoir le talent. Parce que j'avais le talent. Je ne peux rien faire pour ça. Je ne suis pas fière de ça. Mais c'est la nature. Mmh. C'est la nature, non?
La relation professionnelle avec Callas, c'était facile.
Ah, fantastique.
La relation humaine aussi
avec fantastique. Elle est allée avec moi dans le magasin pour acheter des saucissons et des choses comme ça. Elle était professionnelle. Elle et moi et l'orchestre et Serafine, on était là à 10 heures, ou 10 minutes avant 10 heures. Et Corelli, il était le star. La femme a téléphoné à 12 heures quand on a déjà dit ben, « Où est Corelli ?» Elle a téléphoné. « Yeah, Franco ne peut pas venir maintenant, seulement l'après-midi. Oui. »
Vous avez eu d'autres expériences d'ailleurs avec Franco Corelli, au Met, hein, quelques années plus tard. Vous pourriez nous raconter ça un peu. Ça, c'était Werther où vous chantiez Charlotte.
Oui.
Et lui, le rôle-titre, bien sûr.
Oui, et c'était avec mon mari qu'il était le metteur en scène. Et mon mari voulait, il rentre à la scène,
dans l'ombre un peu, dans la pénombre.
L'ombre. Et quand elle commence à chanter, elle avance plus à la scène, la lumière vient. Parce que c'est beaucoup plus intéressant qu'avoir une lumière tout de suite à la porte. Il ne voulait pas. Il voulait avoir la grande lumière quand il est dans la porte et pas après. Alors, il est parti. Il était déjà à l'aéroport avec la femme et le chien. Oui. Mais il est revenu quand même, il était un grand star. Mmh. Mais j'aimais bien Franco, parce qu'il était beau, il était grand, il avait une voix érotique, alors j'aimais ça.
Une voix érotique
Ah oui.
Qu'est-ce que c'est qu'une voix érotique, Christa Ludwig?
Un ténor doit avoir une voix érotique. S'il n'a pas, ça ne m'intéresse pas. Ah, ça c'est mon avis. Par exemple, Flores, un formidable chanteur, fantastique, mais ça, il n'a pas une femme seule. Non, pas une voix érotique, non. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Corelli, elle était pas sûre de sa voix et la première, il a chanté tout le rôle dans la loge. Non?
Avant la représentation.
Avant. Et j'avais la loge à côté de lui et j'ai dit à mon mari qu'il est venu. Il dit, tu sais, il veut pas chanter. Il ne veut pas chanter, il ne veut pas aller à la scène. Il était tout habillé,
maquillé.
Tout est prêt. J'ai dit, mais oui, il a chanté tout le rôle maintenant dans la loge. Et on avait une substitute, un petit chinois qui était plus petit que moi. Et c'était terrible. Alors, je cherchais des chaussures, son talon et tout ça. C'était terrible.
Oui, domani allora è stessa verra e tu.
Ne fu promessa.
Giura.
Giura.
Mio contento.
C'était en 1960, Christa Ludwig et Franco Corelli entouraient Maria Callas dans une intégrale de Norma de Bellini avec Tullio Serafine et les forces de la Scala de Milan, l'une des très rares incursions de la chanteuse allemande dans ce répertoire du bel canto. Demain à 13h, ce sera le quatrième volet des grands entretiens de Christa Ludwig. Un grand merci à Perrine Mingui, Laurent Lucas, Pierrick Charles et Céline Tranouvel et sur francemusique.fr. Vous retrouvez bien sûr toutes les informations, la réécoute en ligne et le podcast.
France Musique.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.